cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 30 juin 1993.
Encore deux cours. La dernière fois, je vous montrais comment, dans ce regard de philosophie première, il faut noter et décrire. Il ne s'agit pas d'analyser. Décrire ce problème de la croissance de la personne. Comment on devient une personne? Vous voyez, là, on pourrait assumer d'une certaine manière ce que Charles Wauthier dit sur la personne. Psychologique. Quand il montre, je vous le disais au début, je crois qu'il faut le reprendre ici, quand il parle des trois sentiments du moi, les trois sentiments forts du moi, le point de vue de la sécurité, le point de vue de l'autonomie, et le point de vue de la valorisation, et comprendre comment ces trois sentiments du moi s'inscrivent dans le temps. Ce qui est normal, puisque le mouvement est mesuré par le temps, et la croissance du vivant et de la personne humaine, elle s'inscrit aussi dans le temps. Il y a la durée et le temps. La durée intérieure et le temps. Ce qui montre bien que on ne peut pas uniquement voir la croissance de la personne humaine par le point de vue de l'âge biologique. C'est matériel. Et c'est là la très grosse difficulté. C'est très vrai que l'âge biologique joue, mais l'âge biologique n'est que matériel, c'est l'âge du corps par rapport à la durée de la personne. Et je crois là que c'est très important à bien noter. Autrement dit, il y a l'âge biologique. Ça, c'est facile. C'est objectif. Et puis, il y a l'âge réel de quelqu'un. Au point de vue intérieur. Au point de vue personnel. L'âge biologique, c'est individuel. C'est l'individu, ça. Et l'âge profond, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur. Et comment peut-on mesurer cela? Parce que s'il y a croissance, il y a une sorte de mesure. Certains repères matériels. Et donc, c'est mon engagement par rapport à ma finalité. Et ceci correspond à l'éveil en moi de la prudence.
Besoins corporels qui dominent.
non, c'est ça, sa vie biologique. Est-ce que pour nous, notre vie est ponctuée par nos repas? Peut-être que pour beaucoup d'individus, la vie reste ponctuée par les repas. Mais la personne n'est pas ponctuée par les repas. Il y a un conditionnement, oui, mais c'est pas ça qui détermine. Le matin, c'est avant le repas de la main de la du midi. Alors moi, je suis là, très dispo. Je suis en recherche de la vérité, mais le soir, plus du tout. Et je roulerai en dessous de la table, terminant ma journée. Et mon esprit s'éteindra, et c'est mon corps qui dominera. Voyez, là, il y a le gros problème. Je crois que c'est un très gros problème pour l'éducation. L'éducation est quand même l'acquisition de la prudence. Et c'est la prudence qui me permet d'avoir un moi autonome, mais d'une autonomie qui n'est plus uniquement psychologique, qui est l'autonomie morale, humaine, de celui qui est finalisé, celui qui est maître de lui. Je retrouve la formule de saint Thomas qui est tellement forte quand il dit que l'acte volontaire, c'est justement l'acte par lequel on est capable de se diriger soi-même. On domine. Et ça, c'est l'autonomie au niveau humain, au niveau philosophique. On est capable de comprendre que l'amour qui nous unit à la fin est un amour qui me valorise. Je suis capable d'aimer quelqu'un dans la fidélité et de lui promettre fidélité. Quelqu'un qui ne sait pas promettre fidélité est-il une personne? Il reste un individu dépendant du milieu, puisque c'est l'influence du milieu qu'il va suivre. Et par le fait même, il n'est pas une personne qui a opté pour tel bien, telle personne, qui est son bien, qui est sa fin. Et la transposition de la valorisation psychologique au niveau de la conquête profonde l'amour à l'égard d'un bien spirituel, à l'égard d'une personne. À quel âge l'enfant est-il capable, l'adulte, est-il capable de choisir un ami? Je crois ça très très important aujourd'hui. C'est vraiment là où on voit la personne se noue. La personne se noue dans ce choix. Alors, et c'est sûr que c'est différent pour le garçon et la fille. Alors vous voyez, là tout de suite, on voit qu'au point de vue de la formation de la personne et de l'âge réel de la personne, il y a tout de suite une très grosse différence entre le garçon et la fille, au point de vue, et c'est par rapport à l'amour d'amitié, parce que c'est l'amour d'amitié qui noue en premier lieu la personne. Et troisième aspect, la sécurité. La sécurité, c'est être capable de regarder en face les obstacles, c'est la force. Donc vous retrouvez au niveau humain ce que le psychologue a déterminé d'un point de vue psychologique, le moi fort. les droits de l'ami. Et il y a la conscience de cela, la prudence. La prudence me donne la lucidité en m'orientant vers ma fin. Mais je crois que c'est à l'égard de l'émergence de ces vertus morales qu'on ne regarde plus d'un point de vue purement moral, mais qu'on regarde par rapport à ce qu'elles apportent au point de vue de la structure de la personne humaine. Et il y a comme tout un renversement, et que au point de vue éducatif, je crois que c'est capital de regarder cette acquisition qui se fait de notre propre personnalité autour de la prudence, autour de l'amour d'amitié et dans l'amour d'amitié. Prudence, amour d'amitié qui implique sécurité, qui implique responsabilité, qui implique une certaine audace dans la conquête. C'est le premier moment. Et c'est sûrement cela qui, dans la conquête de la personne, m'apparaît comme le moment le plus important. Il peut se nouer très vite. Très vite. Vous voyez, je crois que c'est très variable selon les âges des individus. Qui est capital. Dans le monde d'aujourd'hui, je crois que c'est cela qu'on doit regarder en premier lieu, parce que, nous allons le dire tout de suite, dans le monde d'aujourd'hui, les luttes sont beaucoup plus fortes qu'avant. Et les défenses sont beaucoup moins grandes. On voit ça au point de vue biologique. C'est un petit signe. C'est un signe simplement. Mais au point de vue intérieur, au point de vue moral, c'est très net. Il y a plus de milieux forts. Il faudrait regarder les raisons pour lesquelles, de fait, les milieux forts, le milieu de la famille par exemple, qui est le premier milieu, n'a plus du tout la même force. Pourquoi ? Parce que partout il y a des fenêtres ouvertes. La télévision dans la famille est une destruction de la force, puisque vous introduisez à l'intérieur de la famille des opinions autres que celles des parents. Alors, c'est une aération. On dira que c'est excellent. C'est positif, oui, dans la mesure où ça ne détruit pas tout. Et vous comprenez que cette ouverture est double, parce que la famille n'est pas seule. Alors si le petit copain, lui, voit la télévision et que l'autre ne le voit pas, voyez ce que ça fait. C'est la lutte à l'intérieur même de la famille. Au point de vue des opinions. Et on est incapable de discerner la valeur des opinions. On est incapable de voir où est la vérité dans l'ordre pratique. D'où il n'y a plus de formation. Et je crois que c'est cela le gros problème d'aujourd'hui. C'est qu'on est livré à un combat trop fort comparativement à la force intérieure. On n'est plus préservé. On l'était peut-être trop avant. Ça, c'est possible. On était peut-être trop préservé. La famille était peut-être trop forte et préservée davantage. Mais l'inverse fait des dégâts bien plus grands. On disait au Brésil que jusque 10 ans, les gosses étaient à peu près préservés. Mais qu'à partir de 10 ans, c'est fini. Et alors, l'éruption de on se sert d'enfants pour vendre les drogues. C'est la destruction de la formation. Puisque c'est l'appât immédiat de l'argent. De donner la possibilité de faire ce qu'on veut grâce à l'argent. Et le gosse de 10 ans est incapable de résister. Parce qu'il est incapable de choisir avec force. Donc, on le livre à un combat qui est trop fort. Et il n'en peut rien s'il succombe. Parce qu'il est devant quelque chose qui le dépasse complètement. Je prends cet exemple du Brésil parce que c'est ce que le cardinal me disait. En montrant combien c'est difficile, est-ce que Poincœur eux-mêmes disaient, puisqu'ils s'occupent des gosses de la rue, et essayent de les prendre. Et si jusqu'à 10 ans on arrive, et alors il y a un tournant. Et quelquefois c'est avant 10 ans, ceux qui sont un peu plus avancés. Je crois que c'est ça, alors on touche l'autre question que je crois très important d'avoir. C'est les luttes. Oui, mais je veux d'abord signaler ça. Dans la croissance, il y a un moment où la personne se noue. Et elle se noue autour de la capacité de choisir un ami. Vous voyez, ce n'est plus comme avant l'obéissance. C'est ça, du reste, qui pose de très gros problèmes. Avant, qu'est-ce qui dominait dans l'éducation? C'était l'obéissance. Et je crois que ça, c'est toute l'influence stoïcienne. L'influence stoïcienne a joué un rôle très important là-dessus. Et l'obéissance était capitale. On nouait la personne autour de l'obéissance. Le freudisme a fait tomber tout ça. On ne peut plus dire aujourd'hui que c'est l'obéissance avec le sens de l'autorité qui forme. C'est dérégulé, ça. Avec des avantages, comme toujours, hein. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est de découvrir qu'est-ce qui est avant l'obéissance. Qu'est-ce qui est antérieur à l'obéissance. L'obéissance au plan, voyez, au plan chrétien. L'obéissance est capitale dans la formation d'un novice. On n'est plus un enfant. Dans la formation d'un novice, c'est la formation chrétienne. La formation chrétienne, c'est l'obéissance. Jésus est mort dans l'obéissance. Alors je peux dire que l'obéissance était la vertu immédiatement après les vertus théologales. C'était prudence et obéissance. Je mettrai ça comme ça, vous voyez, pour que vous ayez un petit schéma. Les trois vertu théologale et immédiatement après prudence, obéissance. Parce que l'obéissance est la vertu morale la plus immédiatement reliée. Et on formait à l'obéissance. On formait des... Et le point de vue de la volonté apparaissait comme capital par le point de vue de l'obéissance. Et la prudence elle-même était ordonnée à l'obéissance. Ça, c'est la formation stoïcienne. Chrétienne stoïcienne, vous voyez, un christianisme stoïcien, on ne peut pas nier qu'il a existé à partir du 17e, 16e et 17e. Et c'est celle-là qu'on voit immédiatement pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'obéissance appelle l'autorité. Il n'y a pas d'obéissance. Et ceci était, d'une certaine manière, compréhensible, puisque, au point de vue chrétien, le Christ meurt dans génétique, mais pas l'obéissance. Pas du tout. Alors vous allez dire, premier génétique, c'est encore l'obéissance, puisque l'enfant est incapable de découvrir par lui-même. Oui, c'est vrai qu'on retrouve quelque chose dans le premier génétique de l'obéissance. Puisque l'enfant est incapable de se diriger tout seul. Mais ce n'est pas la véritable obéissance. Hein. C'est plutôt former un milieu dans lequel il pourra se découvrir. Alors, ce milieu est bien formé par l'autorité. L'autorité familiale. C'est sûr. Mais cette obéissance n'est pas du tout l'obéissance parfaite qui relève directement de l'amour. Le Christ est mort dans l'obéissance par amour. Il me semble qu'il y a eu cette erreur profonde de l'ontologisme. C'est que le premier, selon l'ordre de nature, est devenu le premier selon l'ordre génétique. C'est l'erreur fondamentale de l'ontologisme. L'intelligibilité est première et elle commande la réalité. Mais ce que dit Descartes ouvertement, je tourne le dos à Aristote, ce qui est premier, c'est la signification de l'idée. Donc c'est le premier sur l'ordre de nature qu'on applique à la réalité. Donc l'erreur fondamentale, c'est l'erreur pratique dans l'ordre de l'ontologisme. Freud arrive et bombarde ça. C'est la grosse artillerie. Et bombarde l'autorité du père en montrant que c'est catastrophique, puis l'autorité de la mère, c'est catastrophique. Et on livre l'enfant à toutes ces indépendances. Déjà, la méthode Montessori, au point de vue de l'instruction, était un peu comme ça. Il ne faut pas appliquer un programme. Il faut laisser chacun découvrir un peu. Il y a beaucoup de bons, mais vous voyez, pratiquement, il n'y a plus d'enseignement. L'enseignement magistral disparaît. Il faut qu'il disparaisse. Il faut que chacun découvre lui-même sa voie. Il faut que chacun découvre lui-même ce qu'il a fait. Mais est-il capable, quand il est tout petit, de découvrir par lui-même? Est-il capable de faire le discernement entre ce qui est premier dans l'ordre génétique au niveau des instincts et ce qui est premier dans l'ordre spirituel, dans l'ordre prudentiel? Il est incapable. Donc, on le livre à lui-même et on le met dans un état de fragilité. C'est le raisonnement et l'analyse des psychanalystes freudiens. J'ai entendu deux au moment de 68. On a discuté longuement ensemble, 68, et ils m'ont dit carrément, eh bien ça, ce phénomène, c'est la conséquence du freudisme. On a vulgarisé Freud, et la vulgarisation de Freud fait qu'on rejette toute autorité et qu'on veut tout découvrir par soi-même. Alors, rejetant toute autorité et voulant découvrir par soi-même, voyez, on laisse tomber le point de vue de l'obéissance. Et qu'est-ce qui est premier? Ben, c'est très souvent nos caprices. C'est très souvent nos instincts. Et c'est ça qui doit tout commander. Donc, plus aucune acquisition de vertu. Incapacité de former une volonté. Incapacité par le fait même d'une éclosion de la prudence. Vous voyez, on est tombé de carrément en cils là. C'est sûr que ce primat de l'obéissance pouvait mener et pouvait aboutir à des catastrophes. C'est sûr. Parce que ça ne formait pas assez à la prudence. L'obéissance étouffait la prudence. Le volontarisme stoïcien étouffait Ils ont répété ça, j'ai entendu ça, je sais pas combien de fois. Hein. Pour vous donner du courage pour obéir. Vous voudrez commander dans votre vie, mais obéissez. Si vous n'avez ça, vous serez capable de commander. C'est pas la même chose du tout. Commander, c'est le jugement. C'est l'impérium. Obéir, c'est la volonté. Alors que l'obéissance aide à nous former très juste. Mais ce n'est pas le but de la formation. Le but de la formation, c'est pas l'obéissance. Oui, au plan chrétien, c'est l'obéissance qui manifeste l'amour et qui permet à l'amour de s'incarner. Mais c'est pas le but, c'est l'amour. Et l'amour s'incarne dans l'obéissance. L'amour se manifeste dans l'obéissance. Mais la manifestation n'est pas la finalité. Le fruit n'est pas la finalité. Le fruit, c'est l'obéissance. C'est l'amour. Je crois qu'il faut qu'on voit ça très très nettement aujourd'hui. On est dans un ordre temporel. Notre 20e siècle, la fin du 20e siècle, nous oblige, après Freud, de tout reprendre. Parce que Freud, c'est, je vous dis, c'est la grosse artillerie qui démolit tout. Le bien et le mal, il a tout démoli. En démolissant l'autorité paternelle, il démolit l'obéissance. Parce que l'enfant, son premier acte d'obéissance, c'est à l'égard de son père. Rappelez-vous ça. C'est pas à l'égard de notre mère. Notre mère, elle faisait ce qu'on voulait. Elle était tellement bonne. Il suffisait de crier un tout petit peu fort pour que tout de suite la mère soit là. Tandis que le père, pas du tout. Tu cries à elle, on va te laisser crier toute la journée. Et tu continues de crier, tu te rends. une finalité que je découvre par la philosophie. La finalité de l'esprit. Que psychologiquement, je ne peux pas. Et c'est là, je crois, le point de vue très important pour réfléchir sur comment acquérir ce premier moment de la personnalité humaine, la capacité de choisir un ami, me nouer dans ma première finalité, et bien me nouer, choisir un ami qui sera pour moi une vraie finalité, et non pas choisir un ami qui pour moi sera une déviation. Et ceci se fait très vite. Et quand il y a un faux nœud, et vous voyez bien, on le voit aujourd'hui, les faux nœuds, c'est quand on a choisi un ami, on sait prendre par un ami plus âgé qui nous a pris et qui nous a mis dans un faux chemin. Un chemin qui détruisait à la place de construire. Et qui fait alors les dégâts ensuite. Les dégâts. C'est, je crois, le nœud premier. Or, ce choix présuppose nécessairement l'intelligence. Une intelligence au service d'un appétit. D'un appétit spirituel qui commence. L'éveil de l'appétit spirituel est à l'égard de la personne. Même si le premier amour à l'égard de la mère implique quelque chose de spirituel, ce premier amour est quand même terriblement enveloppé de l'instinct de l'enfant à l'égard de sa mère, de la partie à l'égard du tout. Il n'est pas conscient. Rappelez-vous votre premier amour à l'égard de votre mère. Il n'est pas conscient. Il est enveloppé de l'aspect instinctif, de l'aspect passionnel, de l'aspect imaginatif. On est né dans les brouillards de la Hollande. Cette chose très extraordinaire, je veux voir ce que c'est que les brouillards de la Hollande le matin. C'est magnifique du reste, mais ça explique tout, des tas de choses. Les brouillards, on n'avait pas encore des phares anti-brouillards. À quel moment les phares anti-brouillard vont naître? C'est quand la prudence apparaît. On arrive à faire le discernement entre ce que représente l'imaginaire et le réel. Le premier choix de l'ami, c'est, je crois, capital aujourd'hui. Parce que on n'a plus de défense. On a supprimé les défenses. Freud a fait ça. Il a fait ce fait qu'on n'a plus d'autorité, donc on n'a plus de défense. Parce que l'autorité est une défense. C'est ce qui nous garde. Donc, je crois qu'au plan philosophique, c'est ça qu'on devrait étudier. Et voir comment on peut faire que le petit bonhomme ou la petite bonne femme arrive à bien choisir. Parce que je vous dis, l'expérience que j'ai. Ça, c'est une expérience personnelle, dans le sens écoutez ce que les jeunes disent, ce que les adolescents disent, que presque toujours, les déviations sont venues d'un mauvais choix à l'égard de l'ami qui vous a entraîné. Et c'est à partir de là que la déviation s'est faite. Donc, il faut remonter au premier nœud. Je ne crois pas que c'est tellement par rapport à l'enfant tout à fait petit. C'est beaucoup plus à l'égard de 6-7 ans. On est dans la capacité de choisir. C'est très rare que 6 ans n'est capable de choisir. J'ai bien l'âge de raison, c'est 6 ans. Mais l'âge de raison, 6 ans pour le chrétien qui vit dans un milieu. moment-là, parce qu'il vit dans un milieu chrétien, c'est l'âge de raison de la foi. C'est pas tellement l'âge de raison de la prudence. Je sais pas si à 6 ans ou à 7 ans, vous aviez une prudence suffisante pour choisir l'ami. Oui, c'était Jésus. Mais ça, c'était la foi. maintenant, je vais l'enfermer, vous avez foutu là. Il avait acquis sa personnalité et son autonomie suffisante. Tandis que la fille devant a l'air tellement autoritaire, pouvait très facilement tomber dans une secte. Parce que l'autorité du père était tellement forte qu'il voulait voir si le choix de la fille était vrai. Vous voyez, c'est toujours ça, obéissance, autorité, prudence et liberté. On est libre grâce à notre prudence. Et l'autorité et l'obéissance n'est pas une école première de la liberté. C'est très bon, c'est très bien, c'est merveilleux, mais attention, ça a un temps. Et le dépassement premier d'autorité et d'obéissance, c'est le choix d'amis. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que pour moi, ça me semble capital. Et ensuite, un autre choix. Et ensuite, un autre choix. Alors là, il faut regarder les étapes de la prudence, la manière dont la prudence mûrit. Vous voyez, la première manifestation de la personne humaine, c'est toujours l'émergence de la prudence. Parce que nous avons dit, dans l'étude, c'est pas à cause de ça, mais ça rejoint ce point de vue-là, c'est que c'est l'intelligence qui structure la personne. Et j'ai beaucoup insisté, si vous vous rappelez, parce qu'il y avait les tenants de la volonté qui structure la personne. Et j'ai dit, non, c'est pas la volonté. Ça, c'est stoïcien. Et c'est pas vrai. Mais que c'est une des tas d'influences sur le christianisme, c'est bien évident. Et en face de Freud, la seule manière de répondre à Freud, c'est la prudence. C'est pas l'obéissance. Parce que là, c'est l'affrontement. Et on voit tout le temps ça, vous savez. C'est très intéressant à ce point de vue-là, récemment, une mère de famille, le fils a dit qu'il va entrer dans la communauté. Dangereux. La mère a été à droite et à gauche, a questionné les curés, savoir qu'est-ce que c'est que la communauté Saint-Jean. Je sais pas. Mystère. Et c'est très vieux, ça. L'évêque suisse représentant les évêques suisses auprès des évêques français, quand on demandait qu'est-ce que c'est que la communauté Saint-Jean, ils répondaient, je sais pas, je sais pas. Alors, c'était dangereux pour les évêques de voir que l'évêque du lieu ne savait pas. Alors qu'on l'invitait. Mais il ne voulait pas savoir, c'est ce qu'il aurait dû dire. Je ne veux pas savoir. Ça aurait pu être légitime. Quoique je crois que c'est pas légitime quand on est responsable. Mais c'est vraiment la formation de la prudence qui est capitale. Alors c'est là où il y a l'affrontement. Formation de la prudence. Comment elle se fait? C'est la vertu qu'on éduque le plus. C'est la prudence. Et c'est la prudence qu'on doit éduquer dans le monde d'aujourd'hui. En acceptant que le premier moment, c'est autorité et obéissance. Mais très très vite, c'est la prudence. Alors je crois que la prudence ne peut s'éveiller que par la finalité. Se former que par la finalité. Alors on verra la fois prochaine, puisque il faudrait étudier ces différents nœuds prudentiels. La prudence de 10 à 15 ans, la prudence de 16 à 20 ans, la prudence après. Et c'est toujours la prudence. Et la prudence de celui qui a autorisé. les milieux de formation.